Votre magazine santé sur Europe 1, Mélanie Gomez.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être. Chaque dimanche de 10h à 11h, nous répondons à vos interrogations. Idées reçues, petits bobos, grand dossier, questions sexo. L'émission Santé et Bien-être, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. À mes côtés comme tous les dimanches, le docteur Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Jimmy. Alors je rappelle que vous êtes médecin urgentiste et qu'ici, tous les dimanches, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont vous prenez, dont nous prenons soin. Alors au sommaire aujourd'hui, notre dossier sera consacré aux addictions et surtout à la motivation qui commence à guetter certains, je l'espère, la motivation d'arrêter enfin de fumer et ou de boire trop d'alcool d'ailleurs, avec la rentrée qui approche. Alors avec notre invité, le professeur Michel Reynaud, président du fonds Action Addiction, on fera le point sur les méthodes ou encore les médicaments qui fonctionnent pour en finir avec tout ça une bonne fois pour toutes. Mon coup de cœur du jour, il sera aujourd'hui pour l'association Rose Up qui a ouvert au début de l'été sa maison rose à Paris après Bordeaux. C'est un lieu, vous allez voir, où on chouchoute les femmes atteintes de cancer. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Il nous dira tout ce qu'il faut faire contre les tiques pour éviter d'être piqué et puis justement, comment réagir si vous ou votre enfant avez été attaqué par l'une de ces bestioles. Ensuite, dans les bobos de l'été, nous évoquerons les jambes lourdes. Plus de 15 millions de Français ont ce problème, dans la grande majorité des femmes. Nous verrons s'il existe des moyens pour ne plus avoir l'impression d'avoir des boulets à la place des jambes pour régler ces soucis de circulation. Enfin, vers 10h50, ce sera la dernière chronique sexo de l'été. Et cette semaine, avec Catherine Blanc, notre sexologue, nous allons parler de désir. Hommes et femmes, sommes-nous réellement égaux en la matière? Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine Santé Bien-être, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Clara, 25 ans, qui vit à Paris. On l'écoute.
Je vous appelle parce que, en fait, j'ai une sorte de poussée d'acné et je comprends pas très bien pourquoi, puisque quand j'étais au soleil, tout était parti. Je comprends pas bien. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il faudrait que j'aille chez ma dermato ou voilà. Eh ben, merci. Au revoir.
Alors, d'abord, Jimmy Mohamed, comment on explique cette disparition des boutons, finalement, de l'acné pendant l'été? Est-ce que c'est un effet direct du soleil, en fait?
Alors, c'est lié au fait que les ultraviolets baissent la concentration d'une bactérie qu'on appelle le Propionibacterium, responsable de l'acné. Sauf qu'en contrepartie, on augmente la kératinisation de la peau et donc on crée plus d'inflammation. Donc, sur
le
court terme,
la kératinisation, ça durcit la peau, c'est ça?
Exactement, voilà. Ça durcit la peau et comme on sécrète plus de sébum sous l'effet souvent des problèmes hormonaux, on se retrouve avec plus d'acné à la rentrée. Donc ça va mieux transitoirement durant la période estivale. Et puis derrière, on a l'effet rebond un ou deux mois après le retour.
Mais il y a des gens chez qui, au contraire, même ça aggrave, je crois. Par contre, ce n'est pas systématique d'ailleurs cette disparition de l'acné pendant l'été.
Alors il y a plusieurs types d'acné. Il y a l'acné inflammatoire et l'acné rétentionnel. Donc inflammatoire, c'est lorsqu'on a des gros boutons rouges et qui suintent. Rétentionnel, c'est lorsqu'on a des petits comédons. Donc chez certains, ça va améliorer. Et chez d'autres, au contraire, ça va s'aggraver. Donc le tout, c'est de se protéger.
Alors justement, parce que donc, si c'est certains, ça disparaît complètement. Ça veut dire, profitons du soleil, ne mettons pas de crème, surtout que ce soleil fasse du bien à ma peau, ou au contraire, il faut se protéger quand
non,
même.
Surtout pas, il faut vraiment protéger sa peau, car en plus, on a une peau un peu plus fragile lorsque l'on a de l'acné, et surtout, ça peut laisser des cicatrices. De la même façon, un enfant qui a la varicelle, on va le surprotéger. Et ben, l'acné, c'est la même chose. On met une crème solaire, on met une bonne
n'importe
crème
laquelle,
solaire.
J'allais dire, parce que quand on a de l'acné, est-ce qu'on peut mettre n'importe quelle crème finalement?
Non, parce qu'il faut mettre une crème qui permette de laisser la peau respirer. Le problème dans l'acné, c'est que le sébum est sécrété de façon inadaptée.
Les pores un peu bouchés, quoi, c'est
pores,
ça
bouche les pores, ce sébum qui normalement sert à lubrifier, et ben dans l'acné, il est beaucoup trop épais. Et du coup, on a de l'inflammation. Donc, il faut une crème qui permet à la peau de respirer. Donc, demandez conseil à votre pharmacien. On ne met pas n'importe crème solaire lorsqu'on a de l'acné.
D'accord. Et donc, à la rentrée, par contre, il peut y avoir effectivement cette poussée là de retour des boutons. On a été tranquille juillet-août. Et puis, finalement, en septembre, pouf, 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 ça ressort de
et
tous les côtés.
Le moment de...
On fait quoi à ce moment-là?
C'est le moment de consulter. Mmh. Alors, il faut déjà, lorsqu'on fait sa toilette, ne pas utiliser des savons trop agressif, donc des savons plutôt sans savon. On évite les lingettes démaquillantes. On utilise des produits cosmétiques adaptés qui ont été testés dermatologiquement. Et puis, on va voir son dermatologue. On ne laisse pas traîner car l'acné, c'est un problème de temps. On ne peut pas s'en débarrasser du jour au lendemain.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Mathilde, 31 ans, qui nous a posé sa question au 3921.
Bonjour, je vous appelle parce que moi, j'aimerais me faire poser un stérilet et mon gynéco dit que ça peut être dangereux parce que je n'ai pas encore eu d'enfant. Et pourtant, mes copines, elles l'ont fait. Et du coup, je voulais savoir si je devais changer de gynéco ou pas. Merci.
Bon, alors, Jimmy, là, je crois qu'on va peut-être clarifier les choses. Effectivement, ce gynéco, je ne sais pas qui c'est. On ne lui tire pas un boulet dessus, mais il a tort.
Oui, il faut changer de gynéco, on va être très clair. C'est l'ancien monde, ça, où on disait, vous n'avez pas eu d'enfant, vous n'avez pas le droit de stériliser. La meilleure des contraceptions, c'est celle que vous avez envie de prendre et celle que vous pouvez prendre. Donc le stérilet, lorsqu'on n'a pas d'enfant, Oui, c'est possible. Quand on a eu des enfants, oui, c'est possible. Donc, il faut en discuter et ce discours-là ne doit plus être entendu.
Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des stérilés qui sont tout petits et qui sont effectivement pour celles qu'on appelle les primipares. Enfin,
exactement.
Elles n'ont pas eu encore
exactement.
D'enfants, les nullipares même. Et la pose chez elles, parce que donc on dit on peut le poser, mais est-ce que le fait de ne pas avoir eu d'enfants, je ne sais pas, est-ce que ça fait plus mal peut-être pour ces jeunes femmes-là?
Ça peut être un petit peu plus douloureux. L'acte n'est pas forcément très agréable, il faut être honnête. Néanmoins, sur des praticiens qui le font régulièrement, ça se passe toujours très bien. Et puis, comme vous l'avez dit, les stérilets pour les nullipares, celles qui n'ont jamais eu de grossesse ni d'enfants, eh ben on met des plus petits stérilets, plus faciles à mettre, donc moins douloureux. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas que ce soit un frein à utiliser une contraception efficace.
Alors, vous avez conseillé à Mathilde de changer de gynécologue, mais est-ce que les sages-femmes, par exemple, elles peuvent aussi poser des stérilets aujourd'hui, je sais pas?
Le champ des compétences des sages-femmes a été élargi, et en plus, c'est tout bête. Les sages-femmes ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires. Poser un stérilet chez une sage-femme.
Donc, ça, c'est possible.
C'est possible, ça vous coûtera 38 euros, remboursé par la sécurité sociale. Et puis, si vous ne posez pas de stérilet par la sage-femme, elle peut vous poser un implant, vous prescrire une pilule, bref, faire tout le suivi gynéco, parce qu'on s'est aussi rendu compte que les gynécologues étaient débordés.
Oui, il en manque aujourd'hui.
Il en manque et c'est parfois
bien sûr
pas très accessible financièrement. Donc, oui, allez voir votre sage-femme pour poser le stérilet.
Et ce stérilet, on le pose, mais alors du coup, les jeunes femmes comme ça qui n'ont pas eu d'enfants, elles peuvent le garder aussi longtemps. Ça se garde combien de temps un stérilet?
Alors, un stérilet, ça se pose déjà au moment des règles de préférence, parce que le col est ouvert et donc c'est plus facile à introduire. On peut le garder 5 ans. En général, on fait un contrôle échographique un mois après la pose du stérilet, puis tous les ans, on vérifie qu'il est bien en place. Mais la durée de vie d'un stérilet, c'est 5 ans.
Merci beaucoup, Jimmy, pour tous ces conseils. Dans un instant, je vais vous livrer mon coup de cœur du jour. Cette semaine, coup de chapeau à l'association Rose Up, qui a ouvert au début de l'été sa maison rose, un lieu où les femmes atteintes de cancer peuvent venir s'informer, échanger ou encore se faire chouchouter. Et le docteur Jimmy Mohamed, lui, vous donnera, comme tous les dimanches, son bon conseil de l'été. Aujourd'hui, il nous dira tout ce qu'il faut savoir sur les piqûres de tiques. À tout de suite sur Europe 1. Heureuse de vous retrouver dans votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque dimanche jusqu'à 11h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes le psychiatre et addictologue Michel Reynaud qui va nous donner les meilleurs conseils pour en finir à la rentrée avec le tabac et l'alcool. Alors c'est le moment de mon coup de cœur du jour et juste après, des bons conseils de Jimmy qui nous parlera des tiques. Alors mon coup de cœur du jour aujourd'hui, il est pour une association. L'association Rose Up, qui est 3 ans après Bordeaux, vient d'ouvrir à Paris il y a quelques semaines sa deuxième Maison Rose. Une structure qui accueille les femmes atteintes de tout type de cancer pour s'informer bien sûr, échanger entre elles, mais aussi profiter de soins spécifiques pour apprendre par exemple à protéger leur peau fragilisée par les traitements ou à se lancer dans des activités sportives adaptées à leur maladie. Caroline Baudry s'est rendue sur place, on écoute son reportage.
Quand on entre dans cette petite maison lumineuse, pas de blouse blanche à l'horizon, mais une grande cuisine ouverte, des salles de massage, de bien-être et des salons pour se détendre et discuter. Cet après-midi, Olivia, atteinte d'un cancer, participe à un atelier sur l'exposition au soleil.
À la plage, est-ce qu'on peut bronzer à l'ombre? Eh oui. Et oui, parce qu'au final, on a la réverbération.
Je viens au moins une fois par semaine, voire deux. On se sent libre en fait, de parler de notre maladie, des soucis qu'en fait, on rencontre chacune avec des traitements très durs. On se sent un peu comme chez nous, il y a plus de solidarité et on se sent moins seul.
Ici, pour seulement 25 euros l'année, les femmes, pendant ou après leur maladie, peuvent venir profiter de cours de yoga ou de cuisine, trouver les bonnes adresses pour acheter une perruque ou de la lingerie adaptée après un cancer du sein. Aurélie Benoît-Grange, directrice des lieux, prépare, toujours avec l'aide des femmes, le programme de la semaine.
De la sophrologie, des séances beauté et bien-être en individuel. Vous avez de la gym posturale et on travaille aussi sur la prévention, sur l'après, une meilleure nutrition, reprendre du sport pour éviter les récidives.
Et contrairement à d'autres structures, la Maison Rose, elle, reste ouverte tout l'été pour accueillir ces femmes qui souvent ne peuvent pas partir en vacances à cause de leur traitement.
Et donc cette maison va accueillir plus de 1000 franciliennes par mois. Alors docteur Jimmy Mohamed, vous en pensez quoi d'un lieu comme ça pour les femmes avant et après le cancer même ?
C'est extraordinaire, vraiment. C'est vraiment une révolution, je trouve, parce qu'on a, nous, du côté médical, on parle de prise en charge pluridisciplinaire. Donc on va voir le médecin, l'oncologue, le psychiatre parfois, le psychologue, la nutritionniste. Mais on oublie l'à côté, la réinsertion dans le travail. Le côté esthétique avec les problèmes de peau, les problèmes de cheveux, le fait que faire du yoga pendant un cancer du sein permet de réduire un petit peu la déprime. Donc toutes ces mesures que nous, du côté médical, on oublie, elles sont enfin prises en charge et ça peut que être bénéfique pour ces patientes.
Et oui Jimmy, alors maintenant justement, ça va être à votre tour pour votre bon conseil du jour. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des piqûres de tiques parce que je crois que justement, les recommandations en la matière viennent de changer récemment.
Exactement, alors c'est vrai qu'il y a un peu une... Alors je suis peut-être allé un peu fort en disant une psychose quant aux tiques et notamment la maladie qu'elle peut transmettre, la maladie de Lyme. Avant, on mettait des antibiotiques après une piqûre assez facilement, notamment chez les enfants, les femmes enceintes, car on craignait...
Systématique, quoi, c'est
ouais,
ça.
C'était systématique. Alors, il y avait des conditions quand même, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on en mettait très facilement. Et donc, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Donc, après une piqûre de tique, il n'est pas nécessaire sauf symptômes, dont on parlera juste après, de prendre des antibiotiques, qu'on soit un enfant, un adulte ou une femme enceinte. Première révolution. Donc, le premier des réflexes que j'ai à dire aux parents, c'est déjà, de, lorsque vous partez dans des zones où il y a des tiques, bah, d'acheter
en
un tire-tique.
En forêt, ou là où il y a des herbes hautes.
Et ça peut être dans même plein de zones, dans le bois de Vincennes, à Fontainebleau ou au fin fond de l'Alsace, peu importe. Donc, emparez-vous d'un tire-tique qui permettra d'enlever les tiques lorsque votre enfant sera piqué.
Parce qu'on n'arrache pas ça avec les doigts. Hein,
et non, surtout pas. Mais... Et même chose que parfois je vois, on essaie de mettre de l'alcool directement dessus. Au contraire, il ne faut surtout pas faire ça. Ça risque, en gros, d'éclater la tique qui va relâcher son poison. Et à ce moment-là, il faut le retirer tout simplement avec un tire-tique.
Dans la pharmacie, c'est
exactement.
Très simple.
Si vous ne savez pas, votre pharmacien peut vous aider une fois qu'on a inspecté toutes les zones. Donc, conseil pratique, lorsque vous rentrez d'une balade en forêt ou en zone où il y a un risque, on regarde au niveau des plis, donc derrière les coudes,
derrière les
genoux,
oreilles.
Derrière les oreilles, au niveau du cuir chevelu, au niveau du pubis, on n'hésite pas. Et si jamais on
surtout chez les petits enfants qui ne vont pas être capables de s'inspecter forcément
exactement.
Partout.
Et si on est piqué une fois, on est peut-être piqué une deuxième fois. Donc, être vigilant lorsqu'il y a une piqûre et pas de psychose. Et on surveille durant les semaines à venir s'il y a une éruption cutanée qui apparaît, s'il y a un syndrome grippal, de la fièvre. Et là, à ce moment-là, on consulte.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et tout de suite, donc, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. On va parler addiction. Aujourd'hui, c'est bientôt la rentrée, la fin des vacances pour certains. C'est souvent le moment des bonnes résolutions. Donc aujourd'hui, on va vous aider, vous prendre par la main pour en finir une bonne fois pour toutes avec le tabac et l'alcool. Bonjour professeur Michel Reynaud.
Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes psychiatre et addictologue et que vous êtes aussi le président du fonds Action Addiction. Alors pour commencer, je crois que vous voulez pousser un coup de gueule aujourd'hui qui concerne alors, des bouteilles de rosée, des associations de lutte contre le cancer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Allez voir le hashtag vin, le hashtag art, le hashtag cancer. Ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir réussi à mettre ensemble le cancer et le vin. Et les foires au vin en ce moment, le festival d'Agnan, sont en train, en utilisant aussi des artistes locaux, de faire des foires au vin dont 1 euro est donné aux associations contre le cancer.
Genre j'achète une bouteille de rosée, 1 euro est reversé. C'est dingue d'associer ces deux choses.
Et surtout en ne disant pas que l'alcool, et donc le vin, est un des facteurs majeurs du cancer du sein.
Et ça, c'est vrai que les femmes l'ignorent. Mais le cancer du sein, elles imaginent peut-être que ça peut être bon familial, ou le tabac peut-être, mais c'est pire l'alcool en fait.
L'alcool est un facteur plus important dans le déclenchement du cancer du sein que le tabac. Alors il n'y a pas que ça comme facteur, mais on sait maintenant que c'est un élément qui doit être pris en compte. Et tout est fait par les alcooliers pour que cette notion ne soit pas perçue. Et c'est encore plus fait avec ce que aux États-Unis, c'est des stratégies de communication bien connues, ils appellent le pinkwashing, c'est-à-dire on transforme en rose le
pour attirer les femmes, jeunes femmes, voilà. Sexy, glamour, l'alcool non, ça n'a rien de sexy ni glamour.
Le rosé est devenu le deuxième alcool vendu en France, enfin le deuxième vin vendu en France est passé avant le vin blanc et ça c'est très clairement ciblé sur les femmes et donc on sait que comme avec l'augmentation du tabac, on a une augmentation des cancers du poumon chez les femmes, on aura une augmentation des cancers du sein d'ici une dizaine d'années. Avec la valorisation de la consommation d'alcool.
Merci professeur Reynaud. Alors vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons continuer à parler alcool et tabac. Et surtout, vous allez nous donner tous vos conseils pour arriver à en finir. Et vous verrez que même si vous avez déjà fait plusieurs tentatives sans succès, c'est encore loin d'être foutu. On dit qu'il faut en moyenne 4 essais pour arrêter de fumer notamment. Mais ça peut être évidemment bien plus, on en reparle. Nous sommes ensemble ce dimanche jusqu'à 11h pour votre émission Santé-Bien-être. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et le professeur Michel Reynaud, psychiatre et addictologue qui va nous aider aujourd'hui à arrêter de fumer et de boire. Alors professeur Reynaud, on va commencer par l'alcool justement. D'abord aujourd'hui, je crois qu'on ne parle plus d'alcoolique, on ne dit plus ce mot-là, vous ne l'utilisez plus vous les médecins, hein, alcoolique.
Non, on utilise la périphrase « trouble de l'usage d'alcool ».
C'est un peu plus compliqué, c'est moins clair. Mais...
C'est moins clair. Le problème, c'est que c'est plus juste, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec leur consommation d'alcool, notamment quand elle est excessive et qui en ont un certain nombre de maladies, mais surtout un certain nombre de problèmes sociaux, d'agressivité, d'inadaptation, d'accidents, et qui ne sont pas des dépendants. Et même parmi les dépendants, il y a des formes plus ou moins graves de dépendance, alors que derrière le mot alcool, on a tous le grand alcoolique dépendant, et que du coup, ça cache tous les autres problèmes qui sont plus précoces et sur lesquels il convient d'agir le plus vite possible.
Docteur Jimmy Mohamed.
Et justement, pour ceux qui nous écoutent et qui se rendent compte qu'ils ont un problème avec l'alcool, quel est le premier interlocuteur à voir ? Est-ce que c'est le généraliste ? Est-ce que c'est l'addictologue d'emblée ? Est-ce que finalement le médecin traitant peut suffire ? Parce qu'on sait qu'aussi, il n'y a pas beaucoup d'addictologues et les délais sont parfois un peu un peu incohérent.
C'est évident. Il y a, on considère en France qu'il y a un alcoolique sur 10 à peu près, ou 2 sur 10 qui sont soignés. C'est-à-dire que les 8 dixièmes ne sont pas pris en charge. Ils ne sont pas pris en charge parce qu'il n'y a pas assez d'addictologues, pas assez de services, que les médecins généralistes ne sont pas forcément formés et intéressés, et que les patients ont du mal à en parler, et que la société leur permet pendant longtemps de se le cacher. Donc pour toutes ces raisons, il y en a peu qui sont soignés. Oui, naturellement, ça devrait être vers le généraliste. Ça veut dire qu'il faut oser lui en parler, donc que ce ne soit pas si tabou, qu'il faut que lui écoute et les réseaux derrière. Mais pour toutes les formes pas très graves, qui sont quand même la grande majorité, et pour toutes les formes de début où il est utile de soigner, hélas pas assez fait vers le généraliste.
Justement, professeur Reynaud, à partir de quand on considère qu'on a un problème avec l'alcool, donc on ne dit pas alcoolique, j'ai bien compris, mais à partir de quand, est-ce que c'est juste le jeune qui va faire du binge drinking tous les week-ends? Est-ce que déjà, si je bois 3 verres tous les jours, alors, pas alcoolique, j'ai un problème avec l'alcool, qu'à partir de quand et comment on sait? Est-ce qu'il y a des tests?
Santé publique France a mis en valeur les normes de risque très modérées et tout à fait acceptables, qui sont 2 verres par jour et pas tous les jours. C'est des normes plutôt basses en France.
Que ce soit 2 verres de vin, 2 verres de bière, 2 verres de tout alcool.
Il y a la même quantité d'alcool dans le verre standard. C'est vrai que quand on est un gros buveur, les verres sont en général plus pleins. Mais on va considérer le verre standard. Et donc, jusqu'à 2 verres par jour, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter.
Au-delà ?
Après, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'à 3 verres, c'est-à-dire 20 verres par semaine, on augmente un peu ses
risques.
C'est
énorme déjà, 20 verres par semaine.
Non, ce n'est pas du tout énorme. Enfin, le problème, c'est que 75% des Français sont en dessous de ces normes, mais que les 25% consomment 80% de l'alcool vendu. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Français qui consomment énormément. Mais entre les énormément, qui ont de très fortes chances d'avoir des problèmes pour eux et pour les autres, il y a toute une zone intermédiaire de risque qui est plus ou moins important, mais où on a quand même les accidents de voiture, les moments de violence, et puis à terme, des problèmes de foie, des problèmes de prise de poids, d'hypertension, toutes ces choses classiques.
Jimmy ?
Et justement, Mélanie l'a un petit peu évoqué, parce qu'on connaît bien les gens qui ont des problèmes d'alcool en prenant régulièrement en petite ou moyenne quantité, mais que penser justement des jeunes qui ne boivent pas beaucoup, mais en semaine, et qui tout d'un coup le week-end décide de prendre 5, 10, 15 verres pour s'alcooliser de façon massive? Est-ce que c'est plus dangereux qu'une alcoolisation un peu sur le long terme chronique?
Alors, la consommation importante sur le long terme, qu'elle soit par moment aiguë ou régulière, est globalement, à terme, aussi dangereuse en fonction des quantités prises. Mais au début, très clairement, les consommations importantes et massives font beaucoup plus de dégâts.
À 17 ans, par exemple.
Oui,
à 17 ans, tous les samedis soirs, 18 ans.
D'autant plus quand on est mineur, puisqu'on sait que le cerveau s'organise pour apprendre à se contrôler et à valoriser tous les circuits qui permettent de se maîtriser et de gérer ses émotions. Les drogues, dont l'alcool, viennent se greffer là-dessus et rendre compliqué le développement. Donc, plus on boit jeune, plus c'est embêtant. Mais même quand on
pour le cerveau surtout, ça fait quoi au cerveau concrètement?
Quand on boit beaucoup, on abîme notamment ce que les zones de la mémoire, les zones de la décision. Alors là encore, c'est en lien avec les quantités bues. C'est-à-dire que pour les gens qui ont une petite cuite de temps en temps, ça se récupère. En revanche, pour ceux qui boivent beaucoup de façon régulière, avec des cuites régulières, avec ce qu'on appelle les blackouts, les comas, les oublis de ce qu'on a fait, là, on sait que ça laisse des traces sur le cerveau assez rapidement.
Alors, pour ces gens-là qui ont décidé, qui nous écoutent, de peut-être prendre en charge ce problème d'alcool, vous avez dit d'abord les généralistes quand ils sont prêts à l'écouter, mais qu'est-ce que vous avez à leur proposer derrière, finalement? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être traités comment? Ils vont être hospitalisés, en cure? Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux gens dépendants à l'alcool?
Il faut bien avoir toute cette gradation. Pour les consommateurs qui commence à boire trop, il est assez facile, et c'est ce que l'on vise avec le médecin traitant ou avec les associations d'entraide, avec le portail Addicted, où on a un forum d'écoute où toutes les géré par des patients experts. Les patients experts, c'est ce qui tout à l'heure mettait en joie Jimmy, c'est une partie de l'avenir de la médecine, c'est-à-dire ce que les patients, eux, savent de leur maladie. on le voit pour les patientes qui avaient des cancers, c'est pareil pour l'alcool. Ceux qui y sont passés sont souvent de très bons conseils avec beaucoup d'empathie.
Donc de très bons réseaux d'entraide. Mais les médecins, vous faites quoi? Vous nous proposez des médicaments? Alors ça dépend, j'ai compris la gravité du problème.
D'abord, on propose de revenir à une consommation non nocive et on essaye de voir s'il est possible de revenir à une consommation non nocive. Après, on peut aider, je me mets à la place du généraliste, on peut aider avec des médicaments tels que le baclofène ou le sélincro qui aident à revenir à des consommations. Alors, il faut derrière qu'il y ait une motivation du patient, un soutien du médecin, une réflexion sur les moments où l'on consomme, sur le pourquoi l'on consomme. Il y a tout un travail à faire, mais ça n'est pas très compliqué. Ce que vous avez en tête, qui est la cure dans le service spécialisé, c'est chez les sujets qui sont gravement dépendants.
Jimmy ?
Et pourquoi j'ai l'impression qu'on a vraiment un problème, un tabou avec l'alcool en France ? Dès lors qu'on oppose l'alcool à un problème de santé publique, on nous dit qu'on est un peu des ayatollahs, qu'on ne comprend pas l'art de vivre à la française, la culture française, la culture du vin. Comment vous expliquez ça ?
Parce que la France, notre président l'a dit, le vin est l'âme de la France. C'est-à-dire que le vin est extrêmement lié à l'histoire française depuis les Gaulois, les Romains, les Grecs. Et donc, ça s'est fait avec nous. Les deux tiers des départements français ont des productions de vin qui font vivre les territoires. Et donc, il y a une culture, une économie. Il y a un plaisir à l'alcool qui est indéniable. Et une
vous ne demandez pas à tous les
vin.
Français d'arrêter le vin, ce n'est pas la question.
Surtout pas. Le but n'est évidemment pas là. En revanche, ce que je voudrais, c'est que les Français sachent qu'au-delà de 2-3 verres, ils augmentent leur risque. Et que tout est fait pour qu'un certain nombre boivent plus. Je rappelle ce chiffre, 80% de l'alcool est acheté par 20% des consommateurs. Donc, la stratégie des alcooliers est de faire boire beaucoup de gens, parce que dans ces beaucoup de gens, un certain nombre de gens feront le modèle économique.
Merci beaucoup, professeur Reynaud. Alors, on n'en a pas terminé avec vous. Dans un instant, on va parler tabac. Et pour ceux qui sont motivés là pour arrêter à la rentrée, vous allez nous dire ce qui marche ou pas. Que faut-il aussi penser de la cigarette électronique pour arrêter? Beaucoup de Français pensent encore que c'est pire que le tabac. Je crois que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. A tout de suite sur Europe 1. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le psychiatre et addictologue Michel Reynaud. Alors, il y a quelques minutes, vous nous avez donné plein de conseils pour en finir avec la dépendance à l'alcool, en tout cas, au moins pour amorcer la démarche dès qu'on sent la motivation monter. Là, on va passer à présent au tabac, encore une mauvaise habitude que vous allez nous aider à combattre. Alors, moi, personnellement, je me confie un peu, du coup, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Je viens de recommencer à fumer, je sais que c'est très très mal. Après 2 ans et demi d'arrêt, là, ça fait déjà quand même la 3e tentative ratée, donc est-ce que je suis foutu, docteur Michel Reynaud ?
D'abord, c'est pas un péché, mais c'est terrible parce que c'est ce que disait Jimmy tout à l'heure, on est des ayatollahs quand on veut dire aux gens qu'ils doivent prendre soin de leur santé. Non, c'est pas par rapport à moi ou par rapport à la morale que c'est pas bien, c'est par rapport à vous et par rapport à votre santé. Et donc c'est à vous de voir si le plaisir contrebalance le risque. Pour le tabac, il est globalement admis quand même que les risques sont tellement importants et le plaisir est un plaisir peu subtil.
Tous les fumeurs doivent arrêter de fumer, c'est pour vous quand même. C'est, je veux dire, là-dessus, c'est pas comme l'alcool où vous disiez il y a quelques minutes un verre ou deux, pourquoi pas de temps en temps. En France, on va pas dire à tout le monde d'arrêter le vin, mais sur le tabac, là-dessus, il y a quasiment pas de doute.
Oui, parce que 80% des fumeurs sont dépendants et la moitié sont gravement dépendants, donc c'est très difficile. Et donc, ils continueront s'il n'y a pas un effort très fort. Et donc, c'est la première cause de mortalité en France, qu'on le veuille ou non. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit être fait. On va revenir après sur comment on peut faire avec votre cas précis.
Jimmy Mohamed.
Et avant le comment, il y a aussi le pourquoi. Moi, je demande aux patients s'ils ont envie d'arrêter de fumer. Parce que souvent, je vois par exemple des asthmatiques fumer et faire des décompensations. Et lorsque je leur explique évidemment que c'est nocif, ils me disent « oui, je comprends bien », mais je leur dis « mais avez-vous envie d'arrêter de fumer ?» Ils me répondent « non ». Donc dans ces moments-là, est-ce qu'on peut forcer les gens ou finalement on s'arrête à ce non ?
Non, on ne s'arrête pas à ce non, mais on ne peut pas forcer les gens. Ce qu'ils veulent dire, ce n'est pas « j'ai envie », c'est « j'ai besoin ». Quand on est dépendant, c'est vital et c'est vrai que les asthmatiques, les cancéreux, les bronchopneumopathiques chroniques, un bon nombre continuent de fumer. C'est-à-dire que c'est plus important que leur vie. Et donc, il faut les aider à trouver quelque chose qui remplace un peu ce besoin vital. Alors, c'est pas subtil le tabac, mais ça gère quand même, ça procure une espèce de sensation de plaisir et de détente qui est indéniable. Et on va y revenir après. Mais ce qu'il faut donc, c'est, ça ne sert à rien de taper sur la tête de quelqu'un quelqu'un qui ne veut pas arrêter, de le culpabiliser parce que c'est encore pire et qu'il s'en refume après parce qu'il est totalement tendu. Non, je crois que la stratégie maintenant, c'est de donner de la nicotine sous toutes ses formes pour que le besoin devienne moins terrifiant.
Et se fixer une date, par exemple, moi je me dis la rentrée peut-être, ou mois de novembre avec le mois sans tabac. Est-ce que c'est important de se fixer un objectif chiffré, si je puis dire?
Alors, c'est important de se fixer un objectif chiffré. C'est éventuellement bien de le partager avec ses proches parce que ça évite de l'oublier au moment où il est là.
Moi, j'ai fixé le 1er novembre 2019.
C'est
alors, ça y est,
c'est
trop tard pour moi.
On vérifiera. Mais après, c'est quand on a envie. C'est vrai que vous disiez que pour les vacances, c'est vous n'avez pas envie de vous contraindre, ça détend, ça va éventuellement avec le petit verre de rosé. Donc, ce n'est pas la peine de mettre les gens en difficulté. Pour certains, les vacances sont un moment où, au contraire, on s'oxygène, on s'aère, on fait du sport et où il est plus facile d'arrêter ses consommations. Pour d'autres, c'est du plaisir et donc on les prend quand on est prêt à en avoir envie.
Jimmy ?
Souvent, les patients me disent « je m'arrête quand je veux, je ne suis pas dépendant ». Comment on pourrait leur prouver qu'ils le sont ? Est-ce que vous avez un conseil pratique pour dire « voilà, ça c'est un signe de dépendance à la cigarette
». La cigarette, il n'y a pas énormément qui disent « je m'arrête quand je veux ». Ça, c'est un discours d'alcool qui est vrai longtemps. C'est-à-dire que la dépendance, elle ne s'installe pas du jour au lendemain. Pour l'alcool, c'est entre 5 et 20 ans. Et elle est plus ou moins grave. Pour le tabac, c'est pareil. C'est plus ou moins grave.
Comment on sait qu'on est dépendant ? Alors, il y a des tests que...
Oui, alors il y a des tests. Il y a ce qu'on appelle le test de Fagerstrom que vous trouvez sur le portail Addicted, où il y a plein de bons conseils, plein d'orientations, ces tests informatisés.
C'est 4-5 questions, on répond et on nous dit vous êtes très dépendant.
On sait quel est le niveau de dépendance. Oui, tout à fait. Et quelle stratégie adopter. Après, il faut demander s'ils sont dépendants ou pas. Il suffit qu'ils arrêtent. On leur dit d'arrêter 15 jours et on voit ce qui se passe.
Est-ce que l'heure de la première cigarette compte beaucoup?
Oui, alors c'est un des marqueurs principaux. Et quand le test de Fagerstrom est très réduit, lorsque, par exemple, les généralistes ont peu de temps, il y a deux questions.
Et c'est quoi ces questions?
Et la première question, c'est combien de temps après le réveil prenez-vous votre première cigarette?
Si c'est dans les 5 minutes qui suivent le réveil, ça veut dire qu'on
Même dans la première demi-heure, ça veut dire que c'est quand même... Mais si c'est la première chose qu'on fait, ça veut dire qu'on est très dépendant. Et après, combien vous en fumez? Parce que
si on boit le café avant, c'est mieux quand même?
C'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux.
Alors justement, on a décidé d'arrêter de fumer à la rentrée, pour certains. Qu'est-ce qu'on doit faire? La cigarette électronique, justement, on en parlait. Est-ce que c'est un bon moyen? Parce qu'on a lu que les Français, il y a un sondage récent qui a été publié par Santé publique France qui montrait que les Français craignent encore ce produit, disent que c'est plus toxique que le tabac. Qu'est-ce qu'on en pense de la cigarette électronique?
C'est terrible. Tous les gens qui s'intéressent sérieusement à l'arrêt du tabac regardent les moyens, et parmi les moyens, la cigarette électronique est en train de devenir celui qui est considéré comme le plus efficace.
Vous en avez vu des patients qui ont arrêté grâce à ça?
Oui, j'en ai vu des dizaines, oui.
Et qui maintiennent le sevrage?
Ça dépend. Si ça marchait totalement et à tous les coups, on le saurait. Mais globalement, ça a un taux de succès d'abstinence plus important et ça a un taux de diminution de consommation. Alors les tabacologues purs et durs n'aiment pas ça parce qu'ils disent c'est le temps où on fume qui est dangereux, mais les quantités jouent un rôle aussi en partie sur certaines complications.
Et c'est pas toxique, ça, on est sûr aujourd'hui?
Alors on est sûr que la toxicité est 95% moins importante que pour le tabac fumé. C'est comme, si vous voulez, c'est ces espèces de représentations qui ne sont pas là par hasard. On parlait de l'alcool tout à l'heure, pour lequel il est si difficile de voir le lien avec le cancer, en particulier chez les femmes. Pour la e-cigarette, c'est terrifiant de voir que plus de la moitié des Français pensent que c'est quelque chose de dangereux. Si dangerosité il y a, elle est très minime. Éventuellement, on pense que ça peut augmenter certains cancers, on le fait avec la viande trop grillée, ou avec c'est un risque minime. Ça peut augmenter, dans certains cas, la tension. Mais là encore, c'est un risque infime par rapport aux complications cardiovasculaires, cancéreuses et pulmonaires du tabac.
À la volée, parce qu'il nous reste peu de temps, les patchs, les médicaments, on en pense quoi pour arrêter de fumer ?
Alors les patchs, c'est très bien. Souvent, dans les groupes d'entraide, si vous allez voir sur Addicted, où on a un groupe d'entraide pour les gens qui boivent, pour les gens qui fument, pour les gens qui prennent du cannabis, qui est justement modéré par des patients experts, ils associent souvent le patch, qui fait un espèce de fond de nicotine, et la e-cigarette
et
pour les moments.
En plus, patchs qui sont désormais remboursés par la sécurité sociale.
Les patchs qui sont remboursés, absolument. Et éventuellement, les médicaments pour lesquels, à ce moment-là, il est souhaitable d'aller voir un tabacologue, c'est qu'en général, on a une forme compliquée de tabagisme important. Par exemple, le Champix, qui est un bon médicament.
Merci beaucoup, professeur Reynaud. Alors, grâce à vous, en tout cas, moi, je suis plus motivée que jamais pour arrêter de fumer. Vous nous avez donné tous les conseils pour y arriver cette fois. Et si ce n'est pas cette fois, ça sera la prochaine, ce n'est pas grave. Il ne faut jamais cesser d'essayer d'arrêter. Dans un instant, on va s'intéresser aux bobos de l'été. Et cette semaine, on va parler des jambes lourdes. Ce problème lié en général à un souci de circulation sanguine qui pourrit la vie de beaucoup de gens, beaucoup de femmes surtout, d'ailleurs, en été. On vous dira tout ce qu'il faut faire pour les soulager. A tout de suite sur Europe 1. Votre émission Santé Bien-être, c'est chaque dimanche de 10h à 11h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps de passer maintenant à notre séquence Les Bobos de l'été. Cette semaine, on va parler des jambes lourdes, ce problème le plus souvent d'origine veineuse qui concerne plus de 15 millions de Français, surtout des femmes. Et justement, Caroline Baudry a été vous donner la parole, à vous qui avez les jambes enflées, qui pèsent une tonne en fin de journée, surtout avec la chaleur. Que faites-vous pour les soulager? On écoute son micro-trottoir.
C'était un peu comme si j'avais des courbatures, comme si j'avais fait du sport ou que j'avais couru. Et après, sinon le soir, j'essayais de les surélever même quand je dormais.
Hydratation et bonne hygiène de vie, ça c'est primordial.
Bah, il y a des compléments alimentaires et il y a aussi les collants de contention. Et puis je m'allonge. C'est une question de circulation du sang.
Ma mère là, ma grand-mère aussi, voilà, ça se passe, c'est de famille. Ça me fait mal en fait, je suis pas à l'aise et je sens mon sang en fait qui se compresse. On m'a conseillé plein de trucs. Bois de l'huile chaude, de l'huile d'olive chaude, plein de trucs comme ça, un peu débile. C'est lourd, mais voilà, faut marcher.
Passer de l'eau aussi sur les jambes. Et en tous les cas, moi vivant dans le midi, ça augmente quand même avec la chaleur. On le prépare déjà un mois à l'avance.
Bon alors Jimmy, je crois déjà qu'il y a un petit constat de départ. Dans le micro-trottoir qu'on vient d'entendre, jambes lourdes, donc il n'y a que des femmes. Est-ce que c'est vraiment que féminin ce problème?
Alors c'est vrai qu'il y a une prédisposition aux femmes pour des histoires hormonales à avoir un peu plus les jambes lourdes, notamment à cause de certains récepteurs au niveau des veines qui font que la circulation se fait moins bien parce que les jambes lourdes, c'est un problème de circulation. On a des artères sur lesquelles on a des parois avec des fibres musculaires qui permettent de pomper le sang. Sur les veines, on n'a pas ces parois musculaires, donc le sang peut remonter et a du mal à remonter à cause de la gravité.
Des pieds vers le haut.
Et jusqu'au cœur. Et le problème, c'est qu'on a des valvules, et ces petites valvules peuvent ne pas bien marcher, d'où le fait que le sang stagne, responsable des jambes lourdes.
Quand ces valvules ne marchent pas bien, on a donc un problème de jambes lourdes, et donc c'est plus les femmes, on a compris. Alors, avant de parler d'éventuelles solutions, est-ce qu'il y a quand même des moyens de prévenir finalement ces jambes lourdes? Là, on est quand même à la fin de l'été, mais en été, on a plus les jambes enflées, les jambes qui pèsent à la fin de la journée. Est-ce qu'il y a des moyens de limiter les dégâts, quoi, un petit peu?
Alors, c'est des moyens plutôt physiques, parce qu'on verra que les médicaments ne marchent pas trop, voire ne marchent pas. Alors, première chose, c'est de ne pas porter de vêtements trop serrés. Donc, on oublie le jean hyper serré, ça n'améliore pas la circulation.
Ça tient chaud l'été, donc
c'est
ça
pas très agréable. Lorsqu'on fait de longs voyages, il faut porter des bas de contention.
Que ce soit en voiture, si j'ai 8 heures de voiture, je mets des chaussettes là de contention.
Et oui. Et d'ailleurs, vous remarquerez que, alors, on ne va pas le remarquer, mais les chirurgiens au bloc opératoire portent des bas de contention pour améliorer le retour veineux, sinon
mais
ils font des malaises.
Statiques trop
exactement.
Longtemps, c'est
donc,
ça.
Lutter contre le fait d'être statique, c'est aussi marcher, faire des pauses lorsque vous voyagez. Donc, en plus des bas de contention, arrêtez-vous quelques minutes. Tous les 2-3 heures.
Dans l'avion,
marcher.
On fait quoi? On se lève.
On se lève, on se dégourdit les jambes. Mais souvent, il y a des petits messages de prévention. Faites des contractions au niveau des mollets, levez-vous, ne restez pas 10-12 heures assis. Vous risquez d'avoir des jambes lourdes à l'atterrissage.
Est-ce qu'il faut choisir bien ses chaussures aussi? Est-ce que les chaussures, genre plutôt le talon aiguille, plutôt sandalette à toute plate, ballerine, je sais pas.
Et ça rejoint le fait de faire de l'activité physique parce qu'on s'est rendu compte que, enfin on le sait, que le retour veineux est amélioré lorsqu'on contracte les mollets, lorsqu'on appuie le sol, le pied contre le sol. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une bonne semelle, une bonne paire de chaussures.
Ah oui, donc
à
on
plat.
Oublie les ballerines trop plats, quoi. Du coup.
Trop plat, mais il faut que ce soit plutôt à plat et on évite les hauts talons. On peut mettre un petit talon, donc mieux vaut avoir des chaussures plates que des gros talons. Ça permet d'améliorer le retour veineux.
Et donc vous disiez l'activité physique, est-ce que ça aide finalement? Parce que quand on a très mal aux jambes, c'est pas toujours évident d'aller marcher justement, mais le fait de marcher, ça va marcher ou faire du sport, je sais
exactement.
Pas.
Hein. C'est comme pour les problèmes de dos, on avait expliqué que dernièrement que lorsque vous avez un lumbago, mieux vaut marcher. Et bien pour les jambes lourdes, c'est la même chose. Vous activez la circulation veineuse, vous permettez un meilleur retour, et puis finalement, les jambes lourdes vont s'améliorer. Ça permet d'éviter de prendre des traitements, ça permet d'éviter des désagréments. Donc oui, il faut marcher lorsque vous avez les jambes lourdes. Même si c'est un peu douloureux, vous allez voir que ça s'améliore très vite.
Et pour ceux qui ont vraiment les jambes lourdes, c'est comme ça, c'est tout le temps. Ils n'arrivent pas à prévenir, même en mettant des vêtements amples et en mettant des bonnes chaussures. J'ai les jambes lourdes, moi le soir, est-ce que la petite douchette fraîche là, sur les jambes, ça fait du bien? Ça sert à quelque chose? Juste ça soulage ou est-ce que c'est utile en fait?
Pourquoi pas, ça stimule un petit peu le circuit lymphatique et veineux, mais il ne faut pas que ce soit trop agressif non plus.
Pas trop froid.
Pas trop froid non plus. Les massages peuvent aider. Alors, on parle, il y a certaines huiles un peu fraîches, mais finalement, n'importe quelle huile de massage de votre conjoint peut faire l'affaire.
L'idée, c'est juste de s'auto-masser.
Exactement. exactement,
faire
pour améliorer le retour veineux, tout simplement. Donc oui,
c'est une bonne raison de se faire masser, quoi, tout simplement.
Oui, exactement. C'est un bon prétexte. Vous avez les jambes lourdes, Mélanie?
Très lourdes. Là, je le sens. Ce soir, j'ai besoin d'un grand massage.
Bah, faudra appeler quelqu'un d'autre alors.
Alors les crèmes spéciales, vous avez dit, c'est pas terrible, ça peut un peu rafraîchir, mais pas forcément traiter. Est-ce que donc, vous parliez des médicaments pas très utiles, mais on les appelait les vénotoniques à l'époque, exactement. On les a déremboursés d'ailleurs, est-ce qu'ils marchent ces médicaments? Alors, parce que déremboursés ne veut pas dire qu'ils n'existent plus, ils sont toujours vendus, mais il faut se les payer, est-ce que ça marche?
Déremboursés, ça veut dire que le service médical rendu est plutôt faible, et donc les médecins prescrivent très peu, voire pas, car on sait que ça n'a pas prouvé réellement son efficacité. Néanmoins, moi j'ai des patients qui me disent « allez mieux avec ça ». Donc tant qu'il n'y a pas d'effet secondaire, je leur dis pourquoi pas, même si aucun traitement miracle n'existe, comme les compléments alimentaires qu'on peut vous proposer. Tous ces vénotoniques ont une efficacité assez limitée. Mieux vaut utiliser les petits conseils qu'on a donnés plutôt que de prendre des médicaments.
Et est-ce que l'alimentation, ça joue? Est-ce qu'il y a des plats, enfin, je sais pas, des plats ou alors des boissons qu'il faut éviter quand on a justement des problèmes veineux, de la rétention d'eau, tout ça?
Alors déjà, c'est de s'hydrater correctement, éviter de prendre trop salé, parce que le sel fait de la rétention, et notamment lorsqu'on a de l'insuffisance cardiaque, hein, les gens le savent très bien. Donc évitez de manger trop salé, et puis buvez énormément, et puis les plats épicés aussi apparemment auraient un impact peut-être un peu plus modéré, mais le problème numéro un, c'est le sel.
Et puis vraiment, si ces problèmes-là, on n'arrive pas à les régler avec tout ça, il y a quand même un médecin dont c'est la spécialité, c'est l'angiologue, hein, c'est ça?
Exactement, le phlébologue,
c'est
l'angiologue.
C'est cardiologue en fait, mais spécialiste de
des veines,
CVSO,
et qui
des
permet
veines.
De faire un diagnostic précis de l'état veineux, et parfois ça peut aller jusqu'à la phlébite lorsque le réseau veineux est très mauvais, donc allez voir l'angiologue si jamais vous avez vraiment des problèmes avec notamment des petits capillaires qui éclatent.
Merci beaucoup Jimmy. Alors grâce à vous, on va avoir des jambes bien plus légères tout l'été. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 11h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler désir. Hommes et femmes, sommes-nous réellement égaux en la matière? Elle nous dira tout. Vous êtes sur Europe 1, à tout de suite. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 10h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, dans notre studio, nous accueillons Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie.
Alors avec vous, tout l'été, on a parlé sexualité. Tous les dimanches, vous nous avez éclairé sur des sujets qu'on n'ose pas toujours aborder en couple ou même avec des amis. Et aujourd'hui, pour cette dernière émission de l'été, on va s'intéresser à cette particularité entre hommes et femmes. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y a vraiment une particularité. Est-ce qu'on est vraiment égaux en termes de désir? Avec cette question justement de Nathan, 38 ans, qui nous écrit de Biarritz. Alors bonjour à tous. Ma femme me dit souvent que j'ai une libido hors norme, enfin en tout cas supérieure à la sienne. Et elle conclut souvent en disant que de toute façon c'est normal, car les hommes sont tous comme ça. Ils ont plus de désir et de besoins sexuels que les femmes. Est-ce que c'est vrai? Donc Catherine, Nathan nous pose cette question. Est-ce que les hommes vraiment ont plus de désir ou plus de besoins que les femmes?
Alors non, mais évidemment ma réponse ne peut pas être aussi catégorique, parce que si le désir masculin et féminin s'équivalent en réalité, l'histoire de chacun n'est pas la même, et le désir n'est pas qu'une histoire pulsionnelle, c'est aussi une histoire de disponibilité. Donc évidemment la disponibilité de l'un et de l'autre, une femme qui a ses règles, une femme qui est ménopausée et qui doit faire avec ce corps qui évolue, une femme qui est enceinte ou qui va accoucher, enfin, il y a des tas de moments où elle est bousculée dans ses préoccupations personnelles qui font qu'elle est moins disposée à l'observation de la sexualité.
Mais au départ, quand on est tous hommes, femmes, qu'on arrive à l'adolescence et après, on est tous programmés pour avoir des rapports sexuels et puis un désir à peu près... j'imagine un désir et des besoins, je ne sais pas s'il y a des besoins d'ailleurs, qui sont égales pour les hommes et pour les femmes.
Absolument, parce que d'abord, l'hormone du désir, c'est la testostérone. Alors vous allez me dire, mais les hommes en ont beaucoup plus que les femmes. Et heureusement, sinon nous aurions du poil au menton. Mais les femmes sont beaucoup plus sensibles à la testostérone. Donc de fait, elles n'ont pas besoin d'être baignées par cette hormone pour avoir du désir. Ceci étant, il y a aussi une histoire historique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a invité, on a vu chez les hommes la possibilité et le fait d'être homme, c'était d'être désirant, et qu'une femme désirante était une prostituée, il est évident que l'expression du désir et la liberté d'être tranquille dans cette expression joyeusement est beaucoup plus difficile à assumer chez la femme que chez l'homme. Et ceci depuis des siècles et des siècles. Et on a beau être dans un temps moderne, nous sommes toujours emprunts de cette lecture où l'homme propose et la femme dispose.
Jimmy ?
Est-ce que physiologiquement, il y a des moments où on a plus envie d'avoir un rapport qu'un autre ? Par exemple, l'érection du matin que les hommes peuvent avoir, c'est pas forcément sexuel, c'est un mécanisme...
Physiologique. Absolument.
Donc le matin, les hommes, ils ont peut-être plus de désir que les femmes ou pas?
Alors en réalité, ils ont des érections, sauf quand ils sont fatigués ou sauf quand ils vont pas bien ou sauf que quand il faut s'inquiéter justement parce qu'il n'y a plus d'érection le matinal. Mais ils ont des érections et comme ils ont des érections, ils se disent tiens, si j'en faisais quelque chose. Donc ce n'est pas nécessairement parce que ça va être, c'est parce que c'est effectivement, comme le dit très bien Jimmy, c'est en réalité tout à fait mécanique. Ce qui est vrai aussi pour le clitoris, hein, c'est-à-dire que le clitoris connaît aussi des érections.
Ah bon ?
Vous savez qu'une femme, comme un homme d'ailleurs, ont des érections dans leur nuit. Sur une nuit de 8 heures, un homme en bonne santé a 4 heures d'érection par nuit à peu
près.
Ah
oui, c'est énorme, ça c'est peu connu.
Et une femme aussi, sauf que évidemment son clitoris étant tout petit, elle ne s'en rend pas compte, sauf de temps en temps quand elle est sous la douche le matin, où le jet de la douche venant heurter son clitoris, tout d'un coup c'est assez sensible, voire douloureux, c'est parce qu'il est en érection. Donc je reviens sur la question effectivement de Jimmy qui était
le matin
tout
plus
à fait...
de désir chez les hommes ou pas.
Et oui, c'est que en fait l'homme ayant une érection, c'est déjà ça de prix. C'est-à-dire, je me vois en érection, je peux en faire quelque chose. Bah tiens, il y a ce corps alangui à côté de moi. Oh, 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 si j'en faisais une bonne occasion. Et c'est une bonne idée de la part des hommes. Sauf que les femmes, elles, ont le sentiment d'être toutes repliées sur elles-mêmes, qu'il faut qu'elles aillent conquérir la vie, qu'en elles, tout n'est pas encore tout à fait opérationnel, ce qui est archi faux, bien sûr, puisqu'au contraire, elles sont toutes à la langueur de ce réveil, à la détente et au non-contrôle, justement, propice à la sexualité.
Et alors, vous on a compris que vous voulez dire qu'on est à peu près égaux en termes de désir. Mais est-ce qu'il y a des âges, par contre, et peut-être liés à des cycles hormonaux, par exemple? On sait que la femme a la ménopause, notamment, il peut y avoir une baisse de la libido. Est-ce qu'il y a des périodes de la vie comme ça où les hommes et les femmes, ils ne sont pas forcément en phase? Vous parlez de la grossesse aussi.
Oui, oui, en effet, c'est pour cela que c'est tout à fait difficile. Parce que ce n'est pas tellement d'un point de vue hormonal, même s'il y a des fluctuations hormonales que l'on peut comprendre et qui entraînent évidemment des préoccupations physiologiques en d'autres lieux. Mais il y a aussi une lecture de soi à faire avec son corps. Parce que pour la sexualité, qui est bonne jusqu'à la fin de notre vie, hein, jusqu'à la fin de nos jours, d'ailleurs dans les maisons de retraite, on parle beaucoup sexe, on est très préoccupé par la sexualité et pas seulement les hommes parce qu'ils ne sont pas
depuis ces dernières années. Il y a quelques années, c'était pas forcément les sujets à la mode dans les maisons de retraite, mais ces dernières années, on en parle de plus en plus.
Oui, parce que ça a toujours été le cas. Simplement, on voulait le voir que comme étant les vieux sont des gros cochons et les vieux monsieur encore en particulier. Ce qui est archi faux. Ils sont éminemment vivants et dès lors que l'on est vivant, on est animé de sa pulsion sexuelle parce que c'est une pulsion de vie. Mais évidemment qu'il y a des moments où il faut pouvoir être en tranquillité avec soi. Et de même que, par exemple, une adolescente qui a ses règles et qui est donc hormonalement tout à fait prompte, non seulement à la sexualité, mais même à la fertilité, eh bien, il y a un temps où il faut s'adapter avec ce corps qui change, que l'on vit douloureux même quand il n'est pas nécessairement, parce que c'est compliqué de passer d'une étape à une autre, et la ménopause en fait partie.
Jimmy ?
Que faire quand il y a un déséquilibre dans le couple, quand l'un a un peu plus envie que l'autre ? Est-ce qu'il faut se forcer à le faire en disant « bon allez, on va relancer la machine en quelque sorte » ou au contraire, il faut dire bah « non, je n'ai pas envie ». Attendons un petit peu, au risque de frustrer son partenaire ?
Alors, la réponse est entre les deux. Parce que évidemment, celui qui exprime son désir est celui qui est déjà prêt à la sexualité. Alors que celui qui écoute la demande est celui qui était peut-être encore dans autre chose. Donc, il lui faut faire le chemin. Et en général, c'est celle qui attend, qui est au rendez-vous du désir annoncé par son compagnon. Donc, évidemment, il y a un temps de latence pour rejoindre au rendez-vous. Évidemment qu'on pourrait se dire que c'est comme la nourriture, l'appétit vient en mangeant. La réalité, c'est que tout dépend où on en est dans sa difficulté de désir. Si c'est simplement que là, j'avais envie de faire autre chose, mais t'as raison, allons-y, faisons l'amour, ça s'enclenche très facilement et comme quand je le fais, ça me plaît, eh bien finalement, tout vient à point et tout se fait assez simplement. Si par contre, j'ai beaucoup plus de désir, beaucoup plus de difficultés avec mon désir et que tout d'un coup, le revoilà avec son envie, allez, force-toi, eh bien le force-toi devient une expression de viol de soi. Je ne dis pas que le mari viole sa femme, mais la femme se viole elle-même dans sa liberté de pouvoir dire non, puisque une des libertés sexuelles est aussi la liberté du non. Et évidemment que, contrairement aux apparences, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a le non. Parce que le oui, c'est un pouvoir de faire, d'agir, d'être, mais le non, c'est celui qui pose la limite à l'autre. Et c'est assez douloureux pour celui qui est en désir.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci aussi à vous, docteur Jimmy Mohamed. Vous avez été à mes côtés tous les dimanches cet été. C'est d'ailleurs la dernière de l'été, car la bonne nouvelle, c'est que nous vous donnons rendez-vous dès demain avec une nouvelle émission Santé-Bien-être qui va s'appeler justement sans rendez-vous. On sera là tous les jours, du lundi au vendredi, en direct de 15h à 16h. On va toujours parler santé, bien-être, des sujets qui vous préoccupent ou même qui vous inquiètent, sans tabou et dans la bonne humeur, c'est promis. On va prendre soin de votre santé, vos questions, vos réactions, vos témoignages. À demain sur Europe 1.